Bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu la semaine dernière? À savoir là, les guerres de Syrie. Et ensuite, la description d'un roi, un homme méprisé, qui correspond en partie à Antiochus Épiphanès et en partie à l'Antéchrist. Des questions, non? Ok. Donc, on va parler brièvement de l'Antéchrist par rapport à la fin du chapitre 11. Donc, est-ce que quelqu'un veut lire à partir du verset 36 du chapitre 11 jusqu'au verset 45?
Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est résolu s'accomplira. Il n'aura d'attention ni pour les dieux de ces terres, ni pour la divinité bien-aimée des femmes. Il n'aura d'attention pour aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal, ce dieu que ne connaissaient pas ses pères, il l'honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera de gloire ceux qui le reconnaîtront, et il les fera dominer sur beaucoup. Il leur partagera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du sud se heurtera contre lui, et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers, de nombreux navires. Il s'avancera dans des terres, débordera comme un torrent et passera. Il avancera dans le plus beau des pays, et beaucoup trébucheront, mais Édom, Moab et les principaux des Ammonites échapperont de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de tous les objets de prix de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront sur ses traces. Des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront l'épouvanter et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide.
Merci. Donc on avait dit que ce passage en fait prophétique a des références qui sont un petit peu mélangées. Antiochus Épiphanès, qui était un des Séleucides, ce qu'on avait vu la semaine dernière, autour de l'année 160, entre 170 et 160 avant Jésus-Christ, va très violemment s'attaquer au peuple juif. Et ce texte ici, en fait, à partir du verset 21, mais jusqu'au verset 45, parle a priori de ce roi. Mais il y a des composantes et des éléments dans cette description qui correspondent aussi à l'Antéchrist, qui va être le dernier, on va dire, dernier grand roi ou dirigeant à s'opposer à Dieu et avoir une puissance, un royaume, une puissance sur terre. Et alors c'est une étude qui nécessiterait pas mal de temps à regarder dans l'Apocalypse et à regarder toute la chronologie de la grande tribulation pour bien établir son rôle et son implication. Je vais vous donner quelques points. On va regarder quelques points dans d'autres passages qui décrivent un petit peu certains gros points de qui il est, de ce qu'on sait à propos de lui. Et après, je vais vous donner des références. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder ces autres références. Et éventuellement, on peut en rediscuter. Enfin, vous pouvez m'en parler ou on peut en parler à Pierre. Ou si vous avez des questions, de plus de remarques. Donc, on avait parlé tout d'abord de l'Antéchrist quand on avait regardé Daniel 7. Et dans la vision des quatre bêtes, il y a un passage dans les versets 24 et 25 où on parle d'une petite corne. C'est une des images qui est utilisée pour en parler de l'Antéchrist. Et donc dans Daniel 7, 24 et 25, on nous dit un autre surgira après eux, il sera différent des premiers, en parlant des 10 cornes, et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc ici on voit simplement brièvement qu'il s'oppose au Très-Haut, qu'il a l'autorisation en quelque sorte pendant un certain temps de... Ici décrit comme un temps, deux temps et la moitié d'un temps de s'attaquer aux saints. Et qu'après son jugement, a priori, on a l'arrivée du royaume de Jésus. On a quelque chose qui vient ici. On a sa domination qui est définitivement détruite et anéantie. Et ensuite, le royaume, la domination et la grandeur, le règne éternel qui sont donnés à Jésus. On a vu dans Daniel 8 aussi des choses qui peuvent se référer à lui. Ici, encore une fois, c'est quelque chose où on a une préfiguration avec Antiochus. Mais c'est Daniel 8, 23 à 25. Un roi au visage dur et expert en énigmes surgira, sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira d'extraordinaires dévastations, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Donc il y a cette image du roi au visage dur. Ensuite, dans Apocalypse, alors, on en parle comme d'une bête qui vient de la mer. C'est Apocalypse 13, 1 et Apocalypse 17, versets 1 à 18. Donc Apocalypse 13, 1, on nous dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait les 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms blasphématoires. » On a une description de cette bête qui a des composantes qui correspondent aux 4 bêtes qu'on a vues dans la vision de Daniel, et donc qui représentent en quelque sorte la culmination de la puissance des hommes et qui incorpore des parties de ces différents royaumes qu'on a vu décrits. Il a une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il reçoit, dans Apocalypse 13, 5, on nous dit il reçoit le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et on va voir que c'est quelque chose qui correspond à ce qui était dans les autres passages et qu'on va voir aujourd'hui dans Daniel 12. Qui est cette histoire de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et ça correspond en fait à ces 42 mois ou 1260 jours. Et c'est aussi ces références à ces périodes de temps qui nous permettent de faire le lien aussi et de voir les parallèles.
Et les 42 mois, ça correspond au temps actuel ou c'est comme les semaines
Ça, on va regarder un petit peu, quand on va regarder Daniel 12, on va regarder plus en détail. Là, j'essaie juste de vous donner. Alors, c'est. Je ne savais pas trop exactement comment le présenter parce que c'est des choses qui. Donc, il y a tout le chapitre 13 et le chapitre 17 en grande partie qui décrivent un peu ce qu'il va faire. Mais a priori, alors, pour donner un peu les grandes lignes de qui est l'Antéchrist, a priori, c'est quelqu'un qui va avoir une importance politique, géopolitique au niveau du monde. On sait qu'il va établir une alliance avec les nations qui va amener une paix. Ça, par exemple, c'est écrit décrit dans Daniel 9, 27. Il va avoir un contrôle sur le commerce et il va imposer sa marque sur les hommes. C'est ce fameux 666 dont on entend parler parfois dans la culture un petit peu commune. Ça vient, c'est dans des livres ou des films, un peu cette idée de 666. Et c'est en fait quelque chose qui nous est décrit dans Apocalypse. C'est dans la fin du chapitre 13 dans Apocalypse, en fait, que ça nous est décrit. Il va faire de grands prodiges. Dans Apocalypse 13, 3, on nous dit qu'il a une de ses têtes, donc c'est cette bête qui sort de la mer, qui est blessée et qui est comme blessée à mort. Et en fait, il va être guéri. Et donc, c'est un peu comme, presque comme s'il ressuscitait. Et c'est en partie à cause de ça que la terre va adorer et va être pleine d'admiration pour lui. Et donc, il y a une première partie donc de son règne. On va regarder les dates, mais a priori c'est une période de 7 ans. Et pendant la première période, la moitié de ces 7 ans, 3 ans et demi, il y aura une période de paix où il y a cette alliance et où il va être adoré sur la terre, les gens vont l'accepter, même le peuple juif va l'adorer. Certains pensent qu'à cause de ça, il sera peut-être d'une certaine origine juive. Et au milieu de cette période de 7 ans, ce qu'on nous décrit en fait dans l'Apocalypse, c'est que cet antéchrist est en fait une sorte d'émissaire de Satan, et que Satan, c'est ce qu'on va voir dans Daniel 12, va être définitivement chassé du ciel, en fait. Il y aura une guerre livrée par les anges, et Satan va être rejeté, et rejeté sur la terre, en fait. Aujourd'hui, d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'on voit par exemple dans le livre de Job, Satan a encore un accès au ciel, mais après cet épisode, il va être définitivement rejeté du ciel. Et dans sa fureur, il va provoquer la partie de la grande tribulation, les derniers 3 ans et demi, où il va rompre son alliance avec Israël. Il va faire cesser les sacrifices et l'adoration de Dieu dans le temple juif. Il va demander à être adoré comme Dieu. C'est ce dont Jésus parle quand il parle de l'abomination de la désolation. Il va persécuter les croyants et le peuple juif, et il va essayer de livrer une guerre contre Dieu, en fait. Alors, il y a la majeure partie des textes qui nous décrivent ces événements et dans Apocalypse où on a les choses les plus clairement, mais il y a des références donc dans Daniel, dans ce qu'on a vu. Il y a des choses qui sont décrites dans différents passages du Nouveau Testament. Dans Matthieu 24. Alors là, ça nous décrit un petit peu cette histoire de l'abominable dévastation. Et Jésus n'en parle pas clairement, mais à partir du verset 23, quand il dit « Si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands signes et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. » Et donc ça correspond, par exemple, dans ce qu'on voit dans l'Apocalypse, à cette blessure qui va être guérie et qui va amener les nations à l'adorer. Dans...
Ça, c'était quoi comme référence ?
C'est Matthieu 24. 24, alors après, les versets que j'ai lus, c'était 23 à 24. Tout le chapitre 24, c'est Jésus qui parle un petit peu de la fin des temps. C'est ses disciples qui lui demandent quels signes observer, quels sont les signes de la fin des temps. Et donc lui, il décrit certaines des caractéristiques de la fin des temps. Paul nous parle de l'Antéchrist dans 2 Thessaloniciens. C'est à partir dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et on a quelques détails plus loin, à partir du verset 8. « Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » Et donc ensuite, il y a des passages dans 1 et 2 Jean. Mais principalement, et après, principalement, par rapport à sa défaite, on a Apocalypse 19 et 20 qui décrivent la victoire de Jésus sur Satan et la bête. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu délicates à survoler, mais je voulais vous donner quelques références parce que j'ai eu des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous... C'est quelque chose, je pense, qui mériterait une étude à part entière. Je voulais essayer de vous donner quelques points, comme on en a parlé dans Daniel, comme on l'a mentionné. Dans les textes qu'on a vu, je voulais vous donner quelques éléments. Voilà.
Satan a toujours essayé de prendre la place de Dieu. Et en fait, dans l'Apocalypse, il y a une espèce de trinité où l'antéchrist prend la place de Christ. C'est ce que veut dire le mot antéchrist. Ça ne veut pas dire contre pour se lutter, mais à la place de Christ. Et ça, c'est l'antéchrist. Il y a le faux prophète qui est comme un Saint-Esprit dévoyé. Et il y a Satan qui aimerait bien être comme Dieu le Père. Donc la bête qui est venue de la terre et la bête qui est venue de la mer, et Satan, c'est une espèce de trinité diabolique qui permet aussi de comprendre un peu mieux les différents passages.
Mais moi, juste une chose que je comprends pas trop, parce que donc quand on parle de la grande tribulation et du fait que l'Antéchrist va persécuter les croyants, mais normalement ils sont plus là.
Disons qu'il y a il va avoir un réveil dans le peuple juif, mm-hmm. Qui est décrit aussi dans l'Apocalypse et qu'on va voir un petit peu dans Daniel 12. Et aussi des gens qui peuvent venir à Jésus. Il va avoir des gens qui vont avoir un témoignage de Jésus pendant cette période-là. Il y a notamment deux témoins qui sont envoyés, que certains pensent éventuellement sont Élie et Enoch, qui n'ont pas vécu de mort terrestre, qui ont été enlevés par Dieu au ciel, et certains pensent qu'éventuellement Dieu va les renvoyer sur terre pour être des témoins auprès des nations. Et en fait, l'Antéchrist va les faire tuer. Donc il y a différentes périodes, enfin différents éléments dans ce qu'on voit de la grande tribulation où il va y avoir des gens qui vont venir à Christ pendant cette période-là.
Il y a une chose importante notamment dans Matthieu 24, c'est lorsqu'il est question des élus, de ne pas penser que c'est l'Église. En fait, les élus, c'est souvent une désignation du peuple juif. Et l'Église est déjà enlevée au ciel. Et il enverra, verset 24, chapitre 24, verset 31, il enverra ses juifs, ses anges, avec la trompette retentissante, Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Là, il est question d'Israël. Donc c'est vrai qu'il y a des garde-fous pour bien comprendre les prophéties et toute cette fin des temps. J'en parlerai en principe dimanche aussi. Mmh.
D'autres questions? D'autres?
C'est quoi la référence de Job qui indique que Satan encore assez au ciel?
La référence exacte, je ne l'ai pas notée. C'est dans le premier chapitre.
1-6.
Ouais, 1-6.
Et tu penses que même avec l'œuvre de Christ, c'est que ça demeure quand même comme ça encore?
D'après ce qu'on voit dans l'Apocalypse. D'après ce qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est qu'il va avoir justement une sorte de dans le passage, alors c'est dans l'Apocalypse qu'il est plutôt décrit où implicitement on comprend que Satan est encore peut encore accéder au ciel et va justement être en guerre contre les anges en fait. C'est dans Apocalypse 12:7, 12:7, 8 et 9 en fait, où on nous décrit brièvement cette bataille. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Oui, puis le verset 10. « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Et ensuite, c'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et donc ça, c'est ce qui va lancer tous les éléments, les événements les plus cataclysmiques sur la terre, en fait. Est-ce que quelqu'un veut lire Daniel? Donc on va se lancer dans Daniel 12. Est-ce que quelqu'un veut lire Daniel 12, verset 1 à 4?
Oui, je vais lire. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera.
Et donc c'est très à propos d'avoir lu la fin, le petit passage dans Apocalypse 12, 7 à 10, parce qu'on nous a dit que c'est Michel ou Michaël qui est un des anges, et ici il est décrit comme le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple, qui va combattre et rejeter Satan du ciel. Donc, on commence ici avec cette petite description, avec cette époque-là, ou en ce temps-là. Et donc, c'est le temps où les éléments qui nous sont décrits dans la fin du chapitre 11 de Daniel, dans ce qui précède dans le texte, c'est donc les moments où ce roi qu'on a vu va dresser les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis arrivera sa fin sans que personne l'aide. Donc c'est un petit peu en mélangé. C'est dans les mêmes temps, dans la même époque, ces deux choses vont se passer. Alors, il y a certaines personnes qui pensent qu'éventuellement ce qu'on a lu ici, ce serait quelque chose qui se réfère à ce dont on avait parlé, à savoir les Maccabées et la victoire des Juifs sur les persécuteurs avec Antiochus. Mais à cause de ce qu'on voit dans la suite du texte, et notamment par exemple même au verset 2, ça semble se référer à des temps de la fin des temps, de la fin de l'histoire de l'homme, et il ne semble pas qu'il y ait de place pour qu'il puisse arriver quelque chose derrière dans l'histoire des hommes. Il ne semble pas du tout que ça corresponde à ce qu'on a vu. Et donc ce passage dans le chapitre 12 semble être quelque chose qui est plus du tout un mélange, une préfiguration parlant éventuellement d'Antiochus mais aussi de l'Antéchrist, mais ici quelque chose qui se réfère vraiment complètement à la fin des temps. Et donc ce Michel, ou Michael, qui est décrit comme le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Donc on nous explique qu'il aurait un rôle particulier. Les enfants de ton peuple, ça fait référence à la nation d'Israël. Donc c'est un ange qui a un rôle particulier comme protecteur de la nation d'Israël. On en a parlé dans Daniel 10, il y a eu mention dans la bataille, dans ce qu'on a vu de cette bataille spirituelle dans Daniel 10. Paul en parle dans Jude 1:9, éventuellement, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur lui. Donc ce Michael, qui est un des anges, un peu les chefs des anges, on a l'impression, se dresse. Et malgré le fait qu'il se dresse et malgré le fait qu'il soit le protecteur des enfants de ton peuple, on voit qu'il va avoir une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. Et donc ça, alors il y a des références, c'est ce que certains appellent, c'est la grande tribulation, mais il y a une référence aussi au peuple juif en particulier, et on a d'autres prophéties dans Jérémie 30 verset 7 qui dit: quel malheur, voilà le grand jour, il n'y en a jamais eu de pareil, c'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc c'est ce qu'on appelle la période d'angoisse pour Jacob. Dans Matthieu 24, donc ce passage qu'on a vu tout à l'heure, Jésus fait référence à Daniel. Quand il parle, il dit à partir du verset 15 dans Matthieu 24, donc en y revenant: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Plus loin, à partir du verset 21, il dit: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Donc Jésus rajoute en spécifiant que ça va être quelque chose d'unique dans l'histoire de l'homme, cette période dans l'horreur et dans la détresse qui va caractériser ce temps-là. Il y a d'autres passages qui en parlent. Dans Ézéchiel 20, à partir peut-être du verset 34, « Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous avez été éparpillés avec puissance et force dans un déversement de fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face. Je vous jugerai comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert de l'Égypte, déclare le Seigneur l'Éternel. » Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les liens de l'Alliance. Je séparerai de vous ceux qui sont rebelles et se révoltent contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent en étranger, mais ils ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Donc ici, cette vision, cet ange qui est en train de parler à Daniel, pour revenir au texte, est en train de leur dire qu'à la fin des temps, il va avoir une période de détresse, une période de tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu. Et quand on pense par exemple au peuple juif, à la nation d'Israël, quand on pense à tous les épisodes horribles qu'ils ont vécu dans l'histoire, On peut penser, enfin, il y a, par exemple, on a vu, nous, ce qu'ils ont subi sous Antiochus, avec, par exemple, une estimation entre 50 et 100 000 morts en quelques jours. Les Romains qui vont détruire Jérusalem et qui vont en tuer un grand nombre aussi. Ils ont subi des persécutions par l'Église au cours de l'histoire, pendant le Moyen Âge. Ils ont subi les pogroms dans les pays de l'Est où ils ont été éliminés. Ils ont subi l'Holocauste. Mais il vient encore un temps qui va être plus horrible que ça, plus dur que ça. Et on a vu que Jésus nous dit que ça va être quelque chose d'unique dans l'histoire de l'homme. Et ça, c'est parce que... Alors, on peut voir dans l'Apocalypse un petit peu l'acharnement de l'Antéchrist et de Satan contre le peuple juif. Et c'est quelque chose qui, quand on y réfléchit, devrait nous aider aussi à valider et à dire c'est encore une preuve de la validité de l'histoire de la Bible, de voir l'histoire du peuple juif qui est une histoire complètement invraisemblable, complètement tout ce qu'ils ont subi au cours de l'histoire, le fait qu'ils aient réussi à garder une identité, le fait qu'ils aient réussi à garder une unité, le fait qu'ils aient réussi à survivre et à résister à tout ce qui leur est arrivé, le fait qu'il y a toujours eu une haine et une colère de la part des nations, il y a toujours eu une opposition au peuple juif au cours de l'histoire, pas toujours très compréhensible. On se dit, mais pourquoi pas tout d'un coup les Portugais ou... ça a toujours été les Juifs, quoi. Ça a toujours été les Juifs. Et ça aussi, ça devrait nous faire tilt et nous faire dire l'histoire de la Bible, ce que nous explique la Bible, est complètement logique. Dieu a une alliance particulière avec le peuple juif. Dieu a un plan particulier avec le peuple juif. C'est son peuple. Il a utilisé le peuple juif pour accomplir en grande partie son plan du salut pour les hommes. Il est venu lui-même sur terre à travers le peuple juif, et dans la logique biblique, c'est parfaitement normal que Satan, au cours de l'histoire, veuille toujours s'opposer au plan de Dieu, veuille toujours s'attaquer à ce peuple que Dieu utilise pour son plan. Et ce qui est encore plus fascinant et plus incroyable, c'est se dire non seulement ils ont survécu, mais le peuple juif a toujours prospéré malgré toute l'opposition. J'ai pas fait l'exercice moi-même, mais l'influence politique, l'influence financière, le nombre d'artistes, de chercheurs, de scientifiques, de prix Nobel qui ont des origines juives et qui sortent de ce pays, quand on considère la quantité, le nombre de juifs sur la terre et la petitesse de leur territoire dans l'histoire, c'est incroyable. Et c'est quelque chose qu'on peut présenter et qu'on peut éventuellement aussi avancer comme question peut-être aux non-croyants, parce que c'est quelque chose qui est intéressant, ou c'est intéressant d'y réfléchir. Mais ce peuple, on a cette description dans Daniel 12, on connaît l'histoire dans la Bible, n'a pas accepté Jésus comme leur Messie. Et on a parlé du fait que Dieu avait mis une parenthèse sur l'histoire et qu'il va avoir il y a une sorte de pause. Dieu a un plan, on a vu cette histoire des 69 semaines où il a une échéance par rapport au peuple juif, mais qui a une parenthèse où il y a le temps de l'Église. Mais Dieu va garder son alliance et va en quelque sorte ramener ce peuple juif à lui. Et c'est ce qu'on voit ici dans la fin. du verset 1. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Et donc ici, a priori, il s'agit du peuple juif, de ceux du peuple juif qui auront cru à Jésus pendant cette période de la grande tribulation, qui vont être sauvés. Dieu leur dit, voilà, il va y avoir une période horrible pour vous, mais il y aura une délivrance pour ceux qui seront inscrits dans le livre de vie. Alors on peut regarder les références pour comprendre de quoi il s'agit. On peut regarder certaines choses par rapport aux juifs aussi. Dans Romains 11, Paul parle du peuple juif. Et il commence dans le chapitre en disant « Dieu aurait-il rejeté son peuple ?» Certainement pas. Il continue pendant tout le chapitre. Et on ne va pas lire tout le chapitre, mais à partir du verset 25, il dit « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne preniez pas pour des, que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. » Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Et donc, il y a cette question de, au verset 25, l'ensemble des non-juifs soit entré. Ce temps de l'Église, qui est dirigé vers les non-juifs, quand il va arriver à son terme, quand le dernier non-juif va être sauvé, c'est le dernier qui doit être destiné, enfin que Dieu attend d'être sauvé par l'Église, à ce moment-là, il va agir dans le peuple d'Israël et sauver une grande partie du peuple d'Israël. Il y a différents passages qui parlent de ça. Qui mentionne cette même idée que Dieu va prendre un temps pour s'occuper des Juifs. Il y a notamment Ésaïe 4, verset 3. Ceux qui subsisteront à Sion, ceux qui auront survécu à Jérusalem, seront appelés saints, tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. Il y a aussi le passage dans Joël, qui est cité par Pierre dans le livre des Actes, que certains pensent, dans le contexte, c'est un passage qui s'applique tout d'abord au peuple d'Israël et qui ne semble pas encore avoir eu lieu dans son ensemble. C'est le Joël 2, 28 et 29. Mais donc, il va avoir un retour et un retournement de la part des Juifs qui vont venir à Jésus. Il y a aussi un passage dans Apocalypse 7 qui en parle. Continuons dans Daniel 12.
Joël 2, 28, c'est en fait Joël 3, 1 dans la Bible française.
3, d'accord. 3. Ensuite, à partir donc du verset 2, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » Et alors là, encore une fois, ce sont des choses qui méritent et qui prendraient une étude à part entière. Mais on voit dans différents passages, dans Matthieu 25, dans 1 et 2 Thessaloniciens, dans 1 Corinthiens, dans l'Apocalypse, qu'il y a différentes phases de résurrection, il y a différentes étapes de résurrection et de jugement. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des résurrections, des gens qui vont être ramenés à la vie pour, comme il est écrit ici, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Donc il y a une partie des gens qui sont morts, qui vont être ressuscités en fait pour être jugés par Dieu, par Jésus, à différents moments au cours de cette histoire, cette dernière phase de l'histoire. Mais il y a une partie qui va être destinée à la gloire et à la vie éternelle, et une partie qui va être destinée à comme c'est décrit ici, à la honte et à l'horreur éternelle. Et ça, c'est quelque chose qui est que beaucoup de gens trouvent offensif, mais il y a vraiment une réalité de l'enfer et d'une punition qui va durer éternellement pour les hommes qui ont rejeté Jésus. Il y aura vraiment un moment où chaque homme va se retrouver devant Dieu et Dieu va dire, bon ben toi tu pars de ma présence et tu vas être en enfer et tu vas subir ma punition et ma colère pendant l'éternité. Et pour d'autres, pour ceux qui ont accepté Jésus, la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas accepter. Il y a même certains mouvements dans l'Église qui essaient de dire qu'il y aura peut-être une période de punition, mais que après les gens cesseront d'exister, qu'il y aura une sorte de... pour essayer de minimiser la dureté de cette réalité qui est l'enfer.
Mais pourquoi plusieurs, pas tous ? C'est-à-dire qu'il y en a qui se rendent
compte ? Mais disons qu'il y a... Il y a différentes phases dans ce qu'on voit dans la chronologie de la fin des temps et dans l'Apocalypse. Il y a, a priori, il y a une première résurrection des hommes, des peuples non juifs qui ont été croyants, qui font partie de l'Église, qui vont être ramenés à la vie en même temps que l'enlèvement de l'Église. Il y a une première phase. Après, il va y avoir... quelque chose en particulier avec les juifs, et puis une sorte de finale où ce sera tous les hommes après le règne de 1000 ans. Mais il y a différentes phases suivant les différentes. Alors il y a les croyants de la période de l'Église, il y a les juifs, ceux qui viennent à Christ pendant la grande tribulation. Et alors c'est encore, enfin, encore une fois.
Tout le monde, tous les morts se libéreront.
Pour se tenir devant Dieu et être jugé. Ouais. Pas non.
Non, ça c'est. Si on est en Christ, notre jugement est déjà derrière nous. Il est passé à la croix, et donc on a. Le grand trône blanc, c'est pour ceux qui ne sont pas, ce sont ceux qui ont été sauvés pendant la grande tribulation, ce sera les impies, ce sera surtout un envoi en enfer, le grand jugement de la grande tribulation. Il y a le passage de la Thessalonicien qui explique que ceux qui sont en Christ seront ressuscités, les vivants qui seront encore là seront enlevés avec Jésus dans les airs, et on reviendra.
Oui, mais déjà c'est toute la chronologie qui est de l'Apocalypse, qui est pas vraiment. J'ai pas voulu m'y attarder parce qu'on était dans Daniel et que ça demande vraiment a priori pour bien saisir, il faut plus se pencher sur l'Apocalypse et sur d'autres textes et faire le lien avec tous les épisodes en fait.
Autre chose que j'ai pas compris, c'est que quand on parle du peuple, t'as dit que c'était le peuple juif. Précisément, donc il n'y a que le peuple juif qui sera éprouvé à cette période-là.
Non, les croyants aussi. Allez, les chrétiens, les gens qui viendront à Christ pendant la grande tribulation seront persécutés par le système mondial en place sous le règne de l'Antéchrist.
Les autres seront avec Christ, ils regarderont la grande tribulation de Daru, ils reviendront pour le grand règne du Milan, gérer la terre avec Jésus.
Oui, enfin, ce sera les croyants qui viennent à Christ pendant la grande tribulation.
D'accord. Et pas que on attend beaucoup parler des juifs, on va faire 100 ans.
Tout à l'heure, tu as aussi un verset qui disait que Dieu nous ramènerait sous son bâton.
Ça, c'était dans... Mais ça, c'est quelque chose qui est plus par rapport au peuple juif et qui était de... Enfin, Dieu n'en a pas fini avec Israël, et en quelque sorte, il y a un moment où Dieu va dire, bon, maintenant, il va avoir une sorte de mise au point de la part de Dieu avec le peuple juif Et cette référence où Dieu dit « Je vous ramènerai sous mon bâton, sous ma direction, en quelque sorte. »
Et là, c'est que le peuple juif ou c'est aussi des croyants?
Ça, a priori, c'est un texte qui c'était dans Ézéchiel, je crois, et qui correspond plus, qui correspond au peuple juif de ce que je comprends. En tout cas, pour essayer de se donner un petit peu un peu de perspective, les hommes ont été créés par Dieu et on est créé pour une existence éternelle. Et c'est quelque chose qui devrait nous, en y réfléchissant, devrait nous faire réfléchir à comment on vit notre vie. Si on dit, par exemple, je sais pas moi, je me dis, je vais économiser, je vais vivre ma vie aujourd'hui en vue de la retraite. C'est quoi qui est sage de faire à ce moment-là? C'est d'économiser, c'est de mettre des choses en place, c'est d'essayer d'investir dans des choses de manière intelligente, c'est de se dire... ça, c'est des gens qu'on considère comme sages ou intelligents. Des personnes qui investissent, qui pensent, ou j'en sais rien, peut-être pour un jeune couple marié, ça va être se dire, on va essayer d'économiser de l'argent pour les enfants, pour les études des enfants. Dans notre monde, on a une réflexion qui est de dire, c'est sage de penser, de vivre ce qu'on vit aujourd'hui en fonction de ce qui va venir. Et de se dire, par rapport à cette réflexion, et de voir qu'on a une vie éternelle, investir, enfin, économiser, être sage sur la retraite, c'est dire, bon, pendant 60 ans, peut-être 40 ans, 50 ans, je vais investir et je vais vivre pour, je sais pas moi, peut-être 20, 30 ans si on est bien préservé. Et la réalité de la Bible, c'est de dire, vous avez une toute petite vie là, peut-être 100 ans si vous êtes, et pendant cette période là vous pouvez investir pour l'éternité, quoi. Et dans ce qui est décrit plus loin ici, on va voir cette idée par rapport à ceux qui ont été perspicaces et ceux qui ont enseigné la justice. Mais Dieu, et Dieu nous, enfin, Jésus nous le dit, il y a des choses que Paul nous dit, où il nous dit, ce qu'on fait dans notre vie, ce qu'on va faire pour Dieu, ce qu'on investit pour Dieu, ce qu'on investit pour son royaume, pour son ministère, c'est tellement plus intelligent encore que de se dire, je vais économiser pour ma retraite, quoi. C'est juste même pas comparable. C'est le rapport, il est incroyable. Et ça devrait nous inciter à réfléchir et à vivre notre vie différemment, à vivre notre vie avec des priorités, avec une compréhension de quelles sont les priorités qui devraient être complètement différentes. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité.
Donc peut-être que on dit que, bon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un ici, pour ceux qui sont plus jeunes, qui pensent déjà à la retraite, je pense que ça vaut aussi pour d'autres domaines.
Oui. Mais je pense que cette manière de penser, de se dire on n'est qu'un passage ici, on n'est pas d'ici, notre objectif c'est autre chose. Comme nous le dit Paul, quoi, il avait les yeux fixés ailleurs, quoi. C'était ça met toute notre vie dans une autre perspective, quoi. Ça met tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait au jour le jour, tout ce dans quoi on investit, notre manière de voir les autres personnes autour de nous, notre manière je pense que
t'as dit les
Ouais, c'est vraiment quelque chose qui peut, quand on y réfléchit vraiment et quand on l'intègre dans notre vie, dans notre pensée, notre mode de fonctionner, de vivre, que ce soit pas juste une parole où on le dit, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on croit et qui influence comment on vit, qui peut faire une différence, enfin, juste incroyable, quoi. Et je pense que par moments, dans la vie chrétienne, on perd peut-être ce fil-là et on perd un peu cette perspective-là. Si quelqu'un nous le dit, on dit oui, bien sûr. Mais de manière continue, on n'est peut-être pas à...
Puis je pense que c'est aussi une manière de voir la vie des autres différemment. Mm-hmm. La vie de ceux justement qui ne sont pas chrétiens, et de se dire, mais peut-être qu'aujourd'hui ils ont une belle vie et que tout se passe bien pour eux, mais est-ce que c'est ça qui est important, quoi? Est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on regarde nous en tant que chrétiens? Mm. Et ça nous donne aussi une perspective différente par rapport aux gens qui nous entourent. Mm.
Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Briller comme une étoile pour toujours et à perpétuité. Ça, c'est de la gloire. J'écoutais un commentateur qui disait pensez à la gloire sur terre. Qui c'est qui peut me nommer les 10 derniers vainqueurs des Oscars, les 10 derniers films qui ont gagné le film de prix du meilleur film aux Oscars? Pourtant, tu as des gens qui travaillent toute une vie pour ce moment de gloire. Et 5 ans plus tard, on ne sait même plus qui c'est. Ceux qui ont gagné la Coupe du Monde de foot, ceux qui ont... Même les présidents, on a du mal... Les prix Nobel. Pas en France, je sais pas moi, des l'Académie française ou un prix Goncourt. C'est la gloire terrestre où les gens vont investir toute une vie pour obtenir des choses et on s'en souvient même pas un an après, quoi. Enfin, c'est et le contraste, il est encore une fois, c'est juste même pas comparable, quoi. Dire de briller comme une étoile pour toujours et à perpétuité. Encore une fois, c'est des choses dans lesquelles il vaudrait peut-être mieux investir. D'essayer d'enseigner la justice à beaucoup. Alors ici, de qui il s'agit? Alors, il y a différentes compréhensions. Il y a des gens qui pensent que c'est éventuellement ceux qui vont servir Dieu pendant la grande tribulation, qui sont décrits dans Apocalypse 7. Mais on sait que Dieu n'oublie pas ceux qui l'honorent et qu'il récompense les... Il a prévu de récompenser les gens, même si nous, on se dit, mais je sais pas si ça vient. Il y a dans Hébreux 6, verset 10, « En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. » Après, on sait que Dieu récompense. On sait que, enfin, Jésus en parle dans Matthieu 6 ou dans Hébreu 11. On a aussi des références à ça. Il va justement récompenser ceux qui l'auront servi et ceux qui auront investi dans son royaume et dans ses intérêts. Et le verset 4 ici. « Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. » Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu, où on avait dit que c'était un contraste qui était visible entre Apocalypse, où on ordonne à Jean de garder le livre ouvert et de le donner parce que les temps sont proches, alors que Daniel, on lui dit de fermer le livre, de le marquer du sceau et de le garder caché secret. Et par contre, il dit jusqu'au moment de la fin. Et ensuite, cette fin du verset, qui a priori se réfère au livre et au fait de le garder caché, il dit « Beaucoup seront perplexes » ou « Beaucoup chercheront » et « La connaissance augmentera » ou « La compréhension augmentera ». Et donc, l'idée, c'est que ce livre, au moment où Daniel voit ces choses, c'est un petit peu quelque chose qui est difficile à comprendre. On voit plus loin que Daniel dit qu'il ne comprend pas. Mais Dieu lui dit « À la fin des temps, les gens vont chercher à comprendre, vont chercher à voir, Et le livre va gagner en importance, les gens vont la connaissance va augmenter. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde l'histoire par rapport au livre de Daniel, par rapport aux prophéties et à la fin des temps, on voit que dans les derniers 100, 200 ans, l'Église a produit et a investi un travail et une quantité de recherche et d'écriture de livres incroyables sur l'interprétation et la compréhension de ces livres, de Daniel, d'Apocalypse, de la fin des temps, de passer du temps à essayer de faire des parallèles avec ce qui se passe dans l'histoire, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui est en train d'arriver, d'essayer de comprendre ces prophéties et ces choses. Et certains disent même que cette fin de verset-là, le fait que la connaissance ou la compréhension augmentera, ce serait une raison pour dire qu'en quelque sorte, Dieu va révéler certaines choses à la fin. Plus on va se rapprocher de la fin des temps, plus les choses vont devenir claires et on va avoir une compréhension de ce dont il s'agit. Je peux vous garantir que quand l'abomination de la désolation va arriver, on va se dire... Je crois que tous les personnages sont en place, je comprends très bien exactement qui est qui. Et en même temps, nous, on a peut-être une compréhension qui est plus juste et plus... peut-être qui est encore approximative, mais qui est plus proche, par exemple, que Daniel, qui était avant les royaumes grecs, avant les Perses et les Mèdes, avant les Romains, avant la période de l'Église. C'est marrant aussi parce qu'on a tendance à dire... Souvent dans l'Église, on dit, faut pas essayer, enfin, c'est pas nécessairement bon quand il y a des nouvelles théories ou des nouvelles, des choses qui sont pas clairement explicitées par les écrits de Paul et des apôtres et de Jésus, c'est que c'est des théories dont il faut se méfier. Alors que dans ce passage ici avec Daniel, on a l'impression qu'il dit quand même que concernant la prophétie et concernant la compréhension de la fin des temps, il va avoir une compréhension et des choses qui vont être révélées plus proches de la fin qu'au début. Ce verset, certains le prennent, la fin du verset ici, beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Dans l'expression, ils disent que les gens vont aller ici et là en cherchant et que la connaissance augmentera. Et certains pensent que c'est quelque chose qui décrit ce qu'on observe dans notre société aujourd'hui, à savoir l'accélération incroyable du développement des modes de transport et aussi des systèmes d'information et de connaissances que l'homme a à sa disposition. Quand on pense qu'aujourd'hui, en une journée, on peut faire le tour de la Terre, on peut aller dans l'espace, on peut revenir, on peut... Un jour, on est ici, l'après-midi, on peut être à Tokyo, à Seattle, ou à n'importe où. Alors qu'il y a 50, 100 ans, c'était un doux rêve, ou c'était des voyages qui prenaient... Ou simplement l'augmentation de la connaissance avec des systèmes comme Internet, où on a une quantité de... C'est des choses qui dépassent notre compréhension de combien d'informations est à notre disposition par des systèmes comme ça. Et donc certains disent, ce verset semble annoncer ça, mais il y a aussi cette idée, je pense, de compréhension et de connaissance par rapport au contexte ici, par rapport au livre, qui lui dit de tenir caché parce que c'est quelque chose qui est destiné à la fin des temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?
Quand la prophétie s'accomplit, là, beaucoup le liront. C'est pas un nouveau texte qui est simplement qu'on étudie et qu'on... Mm-hmm. Ces choses qui ont déjà été écrites, quoi, sont connues et utilisées, on les comprend mieux.
Et il y a aussi l'idée, par exemple, la mise à disposition, quoi, le fait de pouvoir diffuser le texte et de l'avoir à disposition. À l'époque de Daniel, il y avait un parchemin. Pour le copier, il fallait je sais pas combien d'années, pour des gars qui copiaient à la main, qui vérifiaient, qui comptaient pour vérifier qu'ils avaient tout. Les copies, c'était pas... Et nous, aujourd'hui, on a des Bibles à 1,50€. Ou alors de francs suisses.
Est-ce qu'on a une idée de jusqu'à quand il est resté caché, ce livre? Puisque Après, bah, c'est un livre que les gens connaissaient. Donc,
Non, il n'est pas resté caché. Il était, il a été inclus dans les écrits qui étaient distribués, qui étaient considérés comme les écrits à partir, je crois que c'est 200 avant Jésus-Christ environ, qu'il a été incorporé un petit peu dans le canon des écritures juives. Donc c'est quand même un livre qui était présent. Il n'a pas été caché, mais même à cette époque-là, c'était quelque chose qui était moins, on se le communiquait par voie orale. Je veux dire, même à l'époque de Jésus, des apôtres, c'était pas aussi facile de tout avoir que nous de nos jours. On avait peut-être un des livres et.
Mais parce que, enfin, c'est par rapport à ce que l'ange lui dit de sceller ce livre et de, je sais pas, de qu'est-ce qu'il dit.
De le tenir caché.
Et de le tenir caché, ouais. Donc. Mm-hmm.
Après lui, le moment où ça a été inclus, alors je ne sais pas exactement tous les détails de comment ça a été conservé et gardé, mais c'est sûr qu'une fois que Daniel est décédé, c'était, là il était déjà âgé, donc il dit bon, ça je ne sais pas, j'ai pas regardé. D'autres questions ? Sinon on va faire la pause.